Il y a l'Assemblée constituante, la constituante qui est adoptée sans problème le 15 décembre 99. Le 16 décembre suivent les catastrophes, la tempête, les milliers de morts et tout ça. Mais ce qu'on va analyser, c'est un peu différentes parties du gouvernement Chavez et jusqu'à ce qu'il a réalisé. Alors, Chavez dit souvent, au point de vue politique, nous avons fait de grandes avancées, mais pas encore au point de vue économique. D'abord, est-ce que tu peux me parler éventuellement des avancées de ce gouvernement?
Les avancées politiques, elles sont relatives. Elles sont relatives au mouvement populaire. C'est-à-dire, on peut encore parler de cette participation et de ce protagonisme qui était inscrit dans la Constitution et qui peu à peu vont devenir des lois. Dans le cas des médias communautaires qui nous occupent, effectivement, la Constitution avait prévu qu'il existe un espace social de la communication, et bien la loi s'est chargée de l'appliquer, et effectivement c'est directement dans la ligne de la participation, mais dans des tas d'autres domaines on retrouve le principe de la prise de décision partagée entre l'État et la population. Donc dans ce sens-là, on peut parler effectivement d'avancée politique. Sur le plan même de la structure de l'État, par contre, on peut relativement considérer qu'il n'y a pas eu de transformation politique. On voit que actuellement, les pouvoirs de l'État restent structurellement des pouvoirs non populaires, la répétition en fait de ce qui existait déjà. Donc là, il y a une contradiction énorme dans le système. C'est tout le problème de quel est en fait le projet bolivarien. Est-ce que c'est une transition vers un modèle vraiment de rupture, qui pourrait être une forme de socialisme, ou en tout cas une forme nouvelle de faire de la politique, ou est-ce que c'est peut-être finalement, comme au début Chavez l'a revendiqué, une troisième voie, parce qu'il faut savoir que Chavez a même invoqué à un moment donné Tony Blair comme référence, et donc on pourrait très bien considérer que c'est une sorte de compensation ou de remise à niveau d'un système qui était beaucoup trop déséquilibré et qui avait besoin d'une dose de justice sociale, donc un certain réformisme. Entre les deux cas, entre les deux extrêmes, si on peut dire, il y aura encore beaucoup de chemin à faire, dans le sens où c'est le mouvement populaire seul qui pourrait vraiment faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est comme on l'a vu au Brésil. C'est le destin classique du populisme. Le populisme n'est pas forcément négatif en Amérique latine, au sens où il peut être le début d'une transformation. Le populisme peut être, comme au Brésil, le moyen de conscientiser des couches de la population sur le plan politique, dans la mesure où ensuite ces secteurs vont pouvoir prendre le relais du projet. C'est un peu le sacrifice de Vargas au Brésil, par exemple. Mais d'une certaine manière aussi de l'unité populaire, le réformisme d'Allende qui se transforme sous la pression populaire, etc. Dans le cas de Chavez, on observe un peu la même chose. On arrive à une sorte de contradiction aujourd'hui. Est-ce qu'il va s'agir, au fond, d'un système présidentialiste qui va continuer à lutter depuis l'intérieur de l'État, essentiellement à partir d'une vision personnelle de Chavez, ou est-ce que c'est un système qui va se transformer sous l'action de la population? C'est ça la vraie question actuellement. Dans quelle mesure aussi Chavez va réellement accepter que cette population prenne le pouvoir, alors qu'actuellement son gouvernement est plutôt conservateur, avec d'énormes problèmes dans le choix même du personnel politique.
Je voulais parler de ce personnel politique. Mais en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que le gouvernement n'est pas l'État, et c'est que donc pour avancer, que ça soit pour faire avancer les mesures que le gouvernement prend, comme le décret loi des terres, ou d'autres mesures, toutes sortes de mesures, il fait face véritablement à par exemple, une grande partie de l'État qui est opposée à ça, qui a des habitudes non démocratiques, même s'ils sont avec Chavez, qui vraiment freine tout ce que peut impulser le gouvernement, même s'il te décrit comme conservateur. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et aussi, d'autre part, il faut prendre en compte aussi que justement, du mouvement Quinta República, 5e République, et tout ça, de nombreuses personnes ont rallié le mouvement de Chavez avant les élections, et maintenant ont retourné leur veste, et beaucoup se sont révélés lors du coup d'État d'avril 2002. Donc comment est-ce que tu pourrais un peu expliquer cette situation assez étrange et qui n'est pas connue de l'extérieur?
Tu touches à la contradiction du système au sens où le rapport de force actuellement est défavorable à la transformation sociale. On a un projet qui est celui d'une personne. On a effectivement un État qui est pratiquement dans l'opposition. Un gouvernement qui, s'il n'est pas dans l'opposition, n'est pas non plus révolutionnaire et qui est souvent formé par les cadres politiques des régimes antérieurs, comme le sont d'ailleurs l'ensemble des fonctionnaires. Par conséquent, le rapport de force, essentiellement, le fait que le processus bolivarien existe encore, c'est parce qu'il y a une immense majorité sociale qui s'est manifestée pour l'appuyer, lors du coup d'État notamment, on l'a bien vu, et bon, la carte maîtresse de la présidence. Mais très isolé en même temps. Il y a une contradiction supplémentaire qui touche à la façon de gouverner de Chavez, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas sûr que Chavez fasse vraiment confiance à la population, sa formation militaire, et puis peut-être sa culture en général fait qu'il préfère donner sa confiance à des cadres politiques hérités de l'Ancien Régime, peut-être par une façon de révérer ce qui a toujours signifié l'autorité dans ce pays. Au moment même où la population a besoin, au contraire, d'exercer ses droits en occupant les postes de l'État, en investissant toute la machine de l'État et évidemment en le transformant à travers des processus de décision directe, on attend justement que Chavez prenne des décisions dans ce sens, lesquelles ne viennent pas. Donc on est exactement à ce point, jusqu'où la population acceptera cette contradiction. Est-ce que l'État va réussir aussi à digérer la possibilité de transformer le système en l'instrumentalisant, en le réduisant? Est-ce que la contradiction sociale va être tellement forte que tôt ou tard la population va faire sauter le verrou? Et tout ça fait partie des questions que nous nous posons au quotidien. Il faut ajouter bien sûr une élite qui reste convaincue qu'elle peut reprendre le pouvoir par la force ou par le sabotage économique ou par un coup d'État institutionnel à travers des mises en cause judiciaires du président. Donc tu vois que le cadre est très complexe, les questions n'ont pas de réponse puisqu'on est au cœur de maintenant du rapport de force et que pour l'heure, rien ne s'est décidé, sauf que on peut observer une ascension du mouvement populaire, un énorme saut qualitatif de la conscience politique de la majorité de la population, qui nous donne au moins l'assurance que ce processus est irréversible. À moins de massacrer l'ensemble de la population, on peut être certain que la vérité, une fois réveillée, ne retourne jamais au sommeil. et que l'ensemble des droits sociaux, des droits politiques que propose le processus bolivarien est déjà rentré dans la conscience populaire qui, évidemment, maintenant doit trouver les moyens de les mettre en pratique, de les concrétiser. Et c'est là, effectivement, où on n'a pas encore de réponse à la question.
Oui, un exemple, par exemple, je ne sais pas, sur le problème de l'État, par exemple, le propre frère de Chavez, Adán Chavez Frías, qui est maintenant président de l'Institut national des terres, donc qui est supposé s'occuper de la mise en place de la réforme agraire ici au Venezuela. Donc lui-même ne reçoit même pas de paysans pour résoudre justement ces problèmes, pour faire avancer la question. Et donc, on va, donc toi tu parles constamment donc du peuple et on va justement parler, c'est que bon j'ai participé moi ici tout de même à plusieurs activités. Il y a tout de même même s'il y a des gens très critiques ou bien plus à gauche que Chavez, on pourrait dire, que ce soit dans les médias communautaires, les cercles bolivariens, tout ça, il y a un très grand respect pour sa personne. Il n'y a aucune mise en doute de son honnêteté. Et il y a, bon, on vend beaucoup d'affiches, des posters, et Chavez. Merveilleux Chavez, l'homme le plus intelligent, le meilleur président. Bon, il y a un peu de ça. Il y a aussi Chavez, on te fait confiance, vas-y, mais bon, on se prend en main aussi nous-mêmes et on va faire avancer ce processus. On va pas laisser l'oligarchie l'arrêter. Donc Chavez appelle toujours et il rend à l'organisation populaire, il rend hommage aux gens organisés au cercle bolivarien, entre autres, qui l'ont un peu sauvé, disons, lors du coup d'État. Comment est-ce que tu vois justement tous ces mouvements populaires, la naissance de très nombreux cercles bolivariens qui sont tout de suite enregistrés au palais de Miraflores, au palais présidentiel, tous ces syndicats qui se rebellent contre leur direction, qui soutiennent eux l'opposition et tout ça, cette direction, cette petite caste qui a fait partie de l'ancien régime. Je ne sais pas, les paysans qui se prennent en main maintenant, qui vont occuper des terres et tout ça, en fonction de la loi des terres. Comment est-ce que tu vois ça? À quel niveau ça a déjà atteint, disons, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette organisation populaire? Et aussi son rapport à la figure, au leader, on va dire, Chavez.
C'est un mouvement qui va prospérer dans la mesure où les revendications qu'il porte vont trouver un véritable essor dans la réalité. Je veux dire, si réellement la loi des terres prend effet dans la réalité, le mouvement paysan n'en sortira que renforcé et lui-même va devenir le sujet même de la transformation de la loi. De même pour les cercles bolivariens, si vraiment ils s'articulent avec des transformations de la communauté populaire, si ils ont le pouvoir de transformer en réalité les lois de participation sur le plan municipal, etc. Oui. Je pense que cet essor de mouvements populaires les plus divers aura un véritable effet dynamique et un véritable poids sur le destin du pays. Le problème, c'est que on a pour le moment beaucoup d'espoir, mais pas toujours de résultats. On a l'assurance que ce mouvement populaire est capable de rassembler de plus en plus de personnes et en même temps on a certains doutes sur la capacité de ces mouvements de réaliser les espaces et de réaliser les droits qui sont inscrits en principe dans le projet bolivarien. Tout dépend encore une fois de la capacité de la base de ces mouvements à empêcher le retour des vieux styles de la politique au Venezuela qui passent par la verticalisation du pouvoir, la représentativité justement des mouvements par des petites élites qui retrouvent les réflexes des régimes antérieurs, par l'instrumentalisation en fait en général du mouvement social. Et donc, encore une fois, on retrouve la contradiction sur le plan national, elle se reflète aussi à l'intérieur de ces mouvements populaires. Quelle sera la capacité de la base de produire une parole et une pratique politique qui, elle aussi, entre en rupture avec ce que les partis ou les mouvements populaires ont toujours été au Venezuela.
Moi, par exemple, il y a 2 jours, il y a 2-3 jours, là, on était à une gigantesque marche de 2 millions de personnes convoquée par Chavez, une semaine avant, et le mouvement 5e République, contre la décision du tribunal, mais bon, suprême de justice, affirmant clairement, disons, qu'il n'y a pas eu de coup d'État, puisqu'ils refusent de juger les 4 militaires impliqués dans ce coup d'État qui a eu lieu. Et donc, on se demande, on voit la force de Chavez, il suffit d'appeler, et il y a 2 millions de gens qui débarquent dans la rue, c'est assez impressionnant. Et en plus, ça se fait régulièrement. Mais on se demande, quand on voit la manifestation, on voit des petits groupes par-ci par-là, des petits partis. Donc quand on voit la manifestation, on voit des petits groupes, des petits partis, tout ça, mais on voit pas comme on peut voir par exemple en Europe, des gros cortèges organisés, la CGT, je ne sais pas quel autre groupe. Et on se demande justement si Chavez disparaissait, un attentat, on ne sait pas. Bon, mais sans Chavez, quelle serait la capacité de mobilisation de ces gens? Et là, c'est vraiment une question qu'on peut se poser, je pense.
Au moment où Chavez disparaît de la scène, c'est-à-dire lorsqu'il est emmené par des militaires hors de Caracas, c'est-à-dire au moment du coup d'État, la population, évidemment, elle est privée en principe de ce chef ou de ce messie au sens positif du terme, hein, puisqu'on peut parler d'un symbole, mais en même temps positif, qui permet un mouvement d'exister, mais au-delà même de sa personnalité, elle se retrouve en tout cas privée de cette référence, et néanmoins on s'aperçoit que spontanément, massivement, la population, par toutes sortes de canaux de communication dont elle dispose par elle-même, sans chef ni mot d'ordre, sort dans la rue et dans l'ensemble du pays réussit à faire échouer le coup d'État, à susciter l'appui renforcé de militaires loyalistes et finalement à rétablir l'ensemble des institutions. Donc on a un exemple d'autonomie du mouvement populaire, évidemment dans des circonstances dramatiques. L'important, c'est que cette autonomie puisse se donner dans la durée, et c'est là où on retrouve donc la nécessaire transformation de l'intérieur du mouvement populaire dans le sens de plus en plus autonome. Une remarque à ce propos, c'est que on a affaire à un mouvement social qui est très lié au secteur informel. On a affaire ici non pas à une organisation issue de la classe ouvrière au sens traditionnel du terme, et peut-être un peu plus lié aussi à l'essor du mouvement paysan, mais on a essentiellement les organisations de travailleurs informels qui expliquent d'ailleurs l'autonomie du mouvement. Ce sont des gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui ont dû créer leur propre circuit de vente et d'achat, leur propre syndicat, si on veut, et sur un mode un peu corporatiste, mais qui, en somme, donne également sa force à la mobilisation populaire. Il est moins facile de contrôler un ensemble de mouvements autonomes issus d'un mode de travail comme le mode informel que de contrôler, par exemple, un mouvement ouvrier à travers la courroie de transmission des syndicats. C'est donc important à noter.
Mais revenons-en au gouvernement. Donc on a parlé un peu de la question politique, la question économique maintenant. On entend, bon, souvent Chavez fait, lors de l'émission, la dernière émission d'Allo Presidente, là, de ce dimanche, il a bien expliqué les problèmes, par exemple le prix du pétrole, la lutte contre la fraude douanière, par exemple. le problème de l'agriculture subsidiée du nord, de l'Occident, européenne ou états-unienne, qui envahit le Venezuela. Aussi, je me rappelle avoir lu Richard Gott, donc journaliste anglais spécialisé de l'Amérique latine et qui a écrit un bouquin sur Chavez et sur le Venezuela en général. On dit que Chavez donc n'est pas un anticapitaliste. Il se déclare tout le temps pour le néolibéralisme, mais ce n'est pas un anticapitaliste. Il est pour un capitalisme national, avec un discours très développementaliste. C'est pas très clair en fait. Est-ce qu'on pourrait qualifier Chavez de social-démocrate finalement, ce que devrait être le discours des sociodémocrates aujourd'hui, tous ces sociodémocrates qui s'appellent encore ainsi mais qui se sont ralliés au néolibéralisme. Comment peut-on définir le projet économique de Chavez face à une population où il y a 80% de pauvreté, c'est des chiffres tout relatifs disons par rapport à d'autres pays ou quoi, bon les gens vivent d'une autre manière, mais comment est-ce qu'on peut définir ce projet?
Jusqu'ici, le projet économique est très limité parce que sur l'essentiel, c'est-à-dire le pétrole, les avancées sont quand même relativement restreintes. L'important, évidemment, c'est qu'il a freiné le processus de privatisation de l'entreprise pétrolière nationale. Et ça, c'est un acquis indéniable parce que c'est quand même le fer de lance de l'économie vénézuélienne. Et évidemment, il cherche à maintenir un secteur public relativement important dans la mesure où dans le reste de l'Amérique latine, la privatisation, comme en Argentine, a été la règle. Mais à partir de là, le projet économique n'est absolument pas défini. On a une sorte de navigation à vue dans le sens où le Venezuela reste au diapason de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est une économie de marché qui perdure, où des correctifs sociaux effectivement sont apportés. Mais encore une fois, il n'y a pas de rupture essentielle. Tout dépendrait encore une fois de la capacité du mouvement populaire à transformer ce qui est un discours en réalité. Donc on a affaire plutôt à de la justice sociale, au sens chrétien du terme, dans la mesure où Chavez a quand même, dans certaines lois, permis à des organisations productives ou à des mouvements comme les mouvements des paysans d'entrer en possession soit d'espace, soit de biens qui rétablissent d'une certaine manière une certaine économie productive nationale. Mais c'est encore quelque chose de très abstrait. L'idée, par exemple, qu'il avait depuis le début énoncé de transformer profondément la structure productive n'est pas encore très perceptible. C'est-à-dire, le Venezuela a pour problème essentiel qu'avec le pétrole comme source essentielle de revenus, on a néanmoins une très grande fragilité économique puisque on importe énormément et la structure de l'économie est très extravertie et aussi très pyramidale. On n'a pas une véritable économie nationale qui pourrait diversifier les activités et aussi créer de l'emploi pour l'ensemble de la population. On a au contraire des intérêts transnationaux qui viennent, comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, se servir d'une main-d'œuvre pour ensuite exporter soit les produits, soit la plus-value. Et par conséquent, peu de réinvestissement à l'intérieur du pays. Dans ce sens-là, les incantations de Chavez vis-à-vis du patronat, en espérant, en comptant sur un réflexe patriotique, évidemment, peuvent faire sourire, tant qu'elles ne sont pas suivies de mesures pratiques. Donc, l'idée, évidemment, de Chavez, telle qu'il l'énonce dans des discours, c'est de créer une économie nationale. On sait que, de toute façon, le développement national au Venezuela ne sera pas possible sans une alliance avec le reste des pays d'Amérique latine sous la forme d'intégration économique latino-américaine. Donc là, effectivement, il y a un intérêt stratégique du Venezuela d'empêcher la mise en place de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, qui l'empêcherait effectivement de mener à bien ce projet de contrôle économique national. Mais pour l'heure, on a donc très peu de réactivation économique. Il faut ajouter une donnée importante, c'est que même si le désastre économique venait de loin et était prévisible bien avant Chavez, c'est-à-dire la décapitalisation du pays, la désindustrialisation du pays, du peu d'industrie qu'il possédait. Néanmoins, il faut ajouter que beaucoup d'entrepreneurs ont accéléré des processus de licenciement ou d'évasion de capitaux ou de fermeture d'entreprise dans le but avoué de créer du mécontentement dans la population et de saboter le processus du président ou le processus bolivarien en tout cas.
Mais par exemple, si en effet les Chavez ne s'oppose pas aux investissements étrangers, par exemple, mais il a pour politique de les contrôler au moins, de pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Mais en même temps, donc les multinationales peuvent venir, il n'y a pas de problème, il vient encore de signer des accords avec Chevron, Total et tout ça. Mais en même temps, il essaye de promotionner les petites, très petites, petites et moyennes entreprises, sous la forme entre autres de coopératives, en faisant adopter par l'Assemblée nationale des lois sur le microcrédit. Est-ce que tu peux m'expliquer éventuellement cette conception?
Oui, c'est une des lois qui est effectivement la plus intéressante, c'est-à-dire la loi sur les coopératives, qui donne effectivement à des petits producteurs, par exemple des paysans ou des pêcheurs ou des ouvriers, peu importe, des artisans, beaucoup plus de facilité pour créer des coopératives avec des crédits alloués par l'État. Effectivement, c'est une stratégie économique destinée à réactiver en partie l'économie nationale et aussi à permettre au moins au milieu de cette crise économique, à d'importants secteurs de la population de créer des sources de travail et de produire aussi des produits à bon marché.
Est-ce que tu peux m'expliquer le rôle des médias ici depuis l'arrivée de Chavez et leur rôle dans le coup d'État, les médias donc commerciaux?
Les médias dominants ont eu évidemment une espèce d'évolution dans la stratégie. C'est-à-dire que sur l'histoire, dans la longue durée, on peut voir que ces médias ont rempli une fonction d'invisibilisation d'une grande partie de la société. C'était, disons, la première partie du travail vu d'aujourd'hui. Dans le sens où, dans une société pratiquement d'apartheid, le média dominant avait pour fonction de réduire à la part congrue la majorité sociale en multipliant au contraire l'espace et la dimension d'une élite qui finalement devenait en quelque sorte la seule image du pays et l'acteur social principal. Et le fait que Chavez arrive au pouvoir modifie évidemment les nécessités et la stratégie. C'est-à-dire que les médias commencent à entrer plus activement dans un processus de reconquête du pouvoir. Et là, on peut recouper facilement avec d'autres expériences en Amérique latine. La plus célèbre, parce qu'elle a été analysée déjà, c'est celle du Chili. Mais on pourrait parler du Nicaragua aussi. C'est-à-dire que la stratégie du média n'est évidemment pas d'informer objectivement, et ça c'est le cas pratiquement d'aucun média, mais de fissurer au maximum le mouvement populaire, de créer le maximum de problèmes, de divisions, de conflits entre les secteurs populaires pris séparément, de nier absolument toute capacité transformatrice du gouvernement en faisant plutôt l'agent de la pauvreté, de noyer le poisson dans l'eau en inventant toutes sortes de références ésotériques religieuses. Bref, d'utiliser, disons, toutes les possibilités qui sont offertes aux médias d'influencer l'esprit des citoyens dans le sens où le pouvoir populaire est une impossibilité totale, où le gouvernement qui mène un processus de transformation sociale est forcément voué à l'échec et est également associé, évidemment, et là c'est le registre classique, à des forces maléfiques associées au communisme, au terrorisme, puisque c'est le dernier avatar du mot communisme. Et on associe à ce moment-là, d'une façon très plastique, le personnage de Chavez à des images qui sont celles de Kadhafi, de Ben Laden, de Fidel Castro, etc.
Mais il y a une autre dimension, c'est que vraiment les médias sont. Ils peuvent, disons, ils ne sont pas objectifs, donc ils